Vous écoutez, on lit pour vous.
Il était très violent psychologiquement. L'animatrice Laurence Boccolini a été sous l'emprise d'un ex-mari. Un texte de Cover Media paru le 27 avril 2026 dans TVA Nouvelles. Laurence Boccolini n'est en général pas très bavarde sur sa vie privée. Mais dans le podcast Bangers, l'ancienne animatrice du Maillon Faible a raconté, lors d'un entretien avec Deborah Grunwald, l'emprise psychologique et manipulatrice qu'elle a subie de la part de son premier mari. Laurence Boccolini avait déjà révélé avoir connu cette violence dans son livre « Showtime, souvenir du chaos », mais elle a été plus précise dans son récit ce 24 avril. « J'ai été mariée à un homme très violent psychologiquement », raconte l'ex-animatrice des enfants de la télé. Et d'expliquer que cet homme était très jaloux de sa réussite, très profiteur, très malin et thérapeute. S'il n'y a pas eu souvent de violence physique, cela a été difficile à vivre, dit-elle. À propos de la violence physique, elle explique « Ton cerveau, la première fois où tu prends une gifle, il ne fait pas la connexion entre le bruit de ton oreille qui siffle, la douleur, le moment et la personne qui te la donne, qui dit t'aimer. Ça ne fonctionne pas comme ça. » L'homme s'est également révélé violent avec ses enfants à lui. « Ça m'a détruite entièrement. J'ai mis des années à me remettre debout », a-t-elle révélé. Pourtant, Laurence Boccolini a eu la force de s'en sortir et de mettre son ex à la porte. « C'est moi qui le mets dehors. C'est un moment très drôle parce que je crois qu'il était chez une de ses maîtresses », a-t-elle raconté à Deborah Grunwald. « J'ai trouvé son numéro et j'ai laissé un message sur le répondeur. J'ai dit « Bonjour, madame, je suis la femme de Monsieur Machin. La voiture avec laquelle il est chez vous est la mienne, donc il n'en a pas. La maison dans laquelle il vit est la mienne, donc il n'en a pas. » Puis Laurence Boccolini a informé son conjoint violent que ses affaires étaient « dans la cour ». S'il lève la main sur toi, ce n'est pas de l'amour, a-t-elle expliqué à sa fille Willow, la fille qu'elle a eue avec l'ancien Mr. Tahiti Michael Fakayo, en 2013, lui conseillant si jamais elle était un jour victime, elle aussi, de violences conjugales. « Tu prends ton sac, tu t'en vas. » Et Laurence Boccolini, qui a 62 ans, affirme que le mariage ne fait absolument pas partie de ses projets. Il était très violent psychologiquement, l'animatrice Laurence Boccolini a été sous l'emprise d'un ex-mari, un texte de Cover Media paru le 27 avril 2026 dans TVA Nouvelles.
Chronique Coaching et psychologie positive. Oui, une blessure médulaire, ça change la vie. Et ça nous transforme aussi. Un texte de Marjorie Aunus, psychologue et chercheure, présidente du conseil d'administration de Mémo Québec, paru dans le numéro 169, printemps 2026, du magazine Paraquad. Je l'ai su tout de suite. Dès que j'ai repris connaissance dans la voiture, j'ai su que ma vie venait de changer à tout jamais. Cette pensée m'a envahie et j'ai cru, au début, que je venais de perdre le contrôle de mon existence. Pourtant, ce n'était pas la première fois que je vivais un deuil important. Donc, je savais que, dans chaque moment difficile, on peut vivre de la tristesse, de la colère et du désespoir, mais aussi ressentir de la beauté, de la douceur, de la gratitude ou encore d'autres émotions positives. Des années après mon accident, la psychologie positive m'a confirmé que c'était le cas. Par exemple, j'ai perdu l'usage de mes jambes. Oui, et je suis en vie pour voir mon fils grandir. Tristesse, colère, injustice et bonheur total. Je suis restée à l'hôpital trop longtemps. Oui, et cela a consolidé mes amitiés, car mes amis sont venus me nourrir et me tenir compagnie tous les soirs à tour de rôle. Oui, j'ai douté de ma capacité à être une bonne maman pour Thomas. Et cela m'a renforcée dans l'idée de défendre les droits des parents en situation de handicap. Parce que si les doutes pouvaient m'habiter, moi qui étais déjà sensibilisée à la situation des parents handicapés, cela voulait dire que les doutes étaient probablement plus forts chez les autres. Et le fait d'être une maman en situation de handicap m'a aussi donné une plus grande légitimité en tant que psychologue et de chercheur. Les trois perspectives, ensemble, ont fait de moi une combattante des plus redoutées. Avoir une blessure médulaire change une vie, certes, et amène plusieurs pertes, plusieurs défis. Gestion de la vessie et des intestins, réorganisation des rôles dans la famille, chamboulement dans nos carrières. Oui, et des opportunités à voir la vie d'une toute autre perspective. Portez attention aux belles choses que nous vivons. Malgré les défis de taille, n'enlève ni la douleur, ni la tristesse, ni la colère, mais peut nous aider à passer au travers des étapes les plus difficiles. Car nous pouvons dire oui et... C'était oui, une blessure médulaire, ça change la vie et ça nous transforme aussi. Un texte de Marjorie Aunos, paru dans le numéro 169, printemps 2026, du magazine Paraquad.
Santé mentale, l'occasion ratée par Québec. Un dossier de Nathalie Collard, paru le 12 avril 2026 dans la presse. Québec propose d'élargir les critères de la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui, connue comme la loi P38. La nouvelle loi permettra d'hospitaliser contre son gré quelqu'un en crise plus facilement. Mais sans ressources supplémentaires en santé mentale, va-t-on vraiment pouvoir aider les gens qui souffrent? Notre chroniqueuse revient sur les principaux arguments dans ce débat. C'est un pas dans la bonne direction. Julien Gendron-Tardif est soulagé. Le jeune homme dont la mère a été assassinée par son jeune frère, Emmanuel, en janvier 2023, accueille positivement le projet de loi 23 déposé par les ministres Sonia Bélanger et Simon Jolin-Barrette en mars dernier. Dans sa nouvelle mouture, la loi élargit les critères qui permettent d'hospitaliser de force un patient aux prises avec de graves enjeux de santé mentale. C'est un pas dans la bonne direction, croit-il. Il n'est pas le seul. De nombreuses familles ainsi que plusieurs intervenants, organismes et coronaires réclamaient la modernisation de cette loi adoptée en 1997. Ma mère est décédée le 25 janvier à 7h27. Je pense que mon frère a rencontré les critères de P38 à 6h ce matin-là, pas avant, affirme-t-il. 4 jours plus tôt, Julien s'était pourtant rendu avec Emmanuel aux urgences de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. On est resté dans mon auto pendant 1 heure, j'essayais de le convaincre d'y aller, raconte Julien, rencontrée au lendemain de l'annonce des deux ministres. Comme son cadet ne représentait pas un danger, grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui, un critère de l'actuelle loi P38 pour hospitaliser quelqu'un contre son gré, la famille s'est sentie impuissante. L'été précédent, Emmanuel avait pourtant été hospitalisé. Il est resté une semaine à l'hôpital, puis il est revenu vivre chez sa mère, raconte Juliet. Il prenait sa médication et il allait mieux. Mais à un moment donné, il l'a arrêté, ainsi que son suivi psychiatrique, sans qu'on ne sache pourquoi. Julien croit que si lui et sa mère avaient été informés des décisions de son frère, cela aurait pu changer l'issue tragique qui a décimé sa famille. Un processus lourd. On a un enjeu au Québec, lance la psychiatre Claire Gamache. On traite les gens à partir du moment où ils posent des gestes criminels. Il faut que ça change. C'est elle qui est présidente de l'Association des médecins psychiatres du Québec, AMPQ, réclame depuis longtemps que la notion de « danger grave et immédiat » pour traiter de force un patient soit modifiée pour un critère de « besoin de soins » ou de « risque de compromission ». On veut pouvoir agir quand on pense que le risque est important. Par exemple, pour quelqu'un qui est en train de tout perdre à cause de sa psychose, même s'il n'est pas dangereux, dit la docteure Claire Gamache. La loi actuelle exige l'implication de psychiatres à toutes les étapes, précise la docteure Claire Gamache, que j'ai interviewée avant le dépôt du projet de loi 23. C'est très long, ça fait beaucoup de paperasse et d'avocats dans les hôpitaux. Le projet de loi 23 prévoit que toutes les demandes soient centralisées au tribunal administratif du Québec par des juges spécialisés, plutôt qu'à deux tribunaux différents, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Le projet de loi prévoit aussi une meilleure communication entre les différents intervenants et les proches des personnes souffrant de problèmes de santé mentale. Je ne sais pas si la nouvelle mouture de P38 aurait pu changer les choses dans notre cas, observe pour sa part Julien Gendron-Tardif. Selon lui, bien avant que son frère commette l'irréparable, son état a souffert d'un manque de ressources et d'interventions. Le diagnostic de la schizophrénie d'Emmanuel est venu après le meurtre, dit-il. Il n'en avait jamais été question avant. Il y a eu un mauvais diagnostic qui a été fait à l'hôpital la première fois et qui nous a handicapés pour le reste. On n'avait pas l'impression que ça pouvait être plus grave, alors que c'était fondamentalement plus grave. Des manques criants. Le manque de ressources en santé mentale, c'est un des principaux constats de l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice, IQRDJ. Quelques mois après le meurtre de Lisanne Gendron, la mère de Julien Gendron-Tardif, le ministre responsable des services sociaux de l'époque, Lionel Carman, a confié à l'Institut le mandat de réviser la loi P38 pour mieux encadrer la garde en établissement et assurer la protection des droits des personnes malades. Or, dans un rapport étoffé déposé en septembre 2025, l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice concluait qu'il ne fallait pas élargir les critères de la loi P38 afin de protéger les droits fondamentaux des personnes malades. On recommandait plutôt d'ajouter des ressources en santé mentale. La Fraternité des policiers et policières de Montréal, qui a déposé un mémoire lors des consultations de l'Institut, est témoin tous les jours du manque de ressources en santé mentale. Il n'est pas rare qu'un de nos policiers, en train de remplir un rapport dans le stationnement d'hôpital où il vient d'emmener quelqu'un sous P38, voit la personne ressortir après un examen rapide, pour ne pas dire expéditif, du médecin, observe son président, Yves Franqueur. Ils n'ont pas le temps. La loi P38 est devenue, au fil des décennies, un substitut à l'absence de ressources de crise, observait pour sa part l'Institut dans son rapport qui contenait 35 recommandations. Elle est souvent le seul moyen pour une famille d'obtenir une évaluation psychiatrique rapide, ajoutait-on à propos de P38 en précisant que le système judiciaire est saturé par des cas qui relèvent de la santé mentale. Or, le gouvernement Legault n'a pas tenu compte de l'avis principal de l'IQRDJ. La pression populaire et médiatique à la suite des morts tragiques de Lisanne Gendron et de la sergente Maureen Brough en 2023 et du commerçant Chung Ho-Kim à la fin de l'hiver était trop forte. On parle d'un équilibre entre les droits de la personne, mais aussi les droits de la société civile. C'est justifié la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, quand un journaliste lui a demandé pourquoi elle allait à la rencontre des conclusions de l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice. C'est quoi la loi P38? La loi P38 donne à un médecin le pouvoir de demander la garde en établissement ou hospitalisation forcée pour quelqu'un qui refuse des soins s'il représente un danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui. Cette loi d'exception a été adoptée en 1997 sous le gouvernement péquiste de Lucien Bouchard. La garde préventive, d'une durée maximale de 72 heures, ne nécessite pas l'autorisation d'un juge. Elle permet un arrêt d'agir. L'autorisation d'un juge est toutefois requise pour obtenir une garde plus longue, maximum 6 jours, dans le but de faire une évaluation psychiatrique. Et il faudra l'évaluation de 2 psychiatres pour une garde encore plus longue. Dans tous les cas, le patient peut refuser le traitement et la médication. Il peut également contester sa garde devant les tribunaux. Le projet de loi 23 propose en gros de remplacer le critère de danger grave et immédiat par une situation où il existe un danger pour la personne ou pour autrui. Il prévoit aussi des mécanismes pour que les différents intervenants, police, personnel médical, famille, etc., puissent mieux communiquer et partager des informations pertinentes. Vous écoutez Santé mentale, l'occasion ratée par Québec. Un dossier de Nathalie Collard, paru le 12 avril 2026 dans la presse. Le traumatisme de l'hospitalisation forcée. On l'a souvent entendu au cours des derniers mois, le Québec serait le champion des verdicts de non-responsabilité criminelle. La loi ontarienne est souvent citée en contre-exemple, car elle n'impose pas le critère de danger immédiat pour hospitaliser de force quelqu'un dont l'état mental se détériore. L'Ontario a créé un tribunal spécialisé qui peut siéger à l'intérieur des murs des hôpitaux, ce qui réduit les allers-retours et la bureaucratie. Mais il y a des angles morts à cette approche. Pour les avocats, par exemple, le système ontarien pose problème, car il fait reposer le fardeau de la contestation sur le patient qui doit lui-même saisir les tribunaux s'il veut contester sa garde. Or, une personne qui ne va pas bien n'est pas toujours en état d'entreprendre ses démarches. Et c'est sans compter les effets d'une hospitalisation et d'un traitement forcé sur les personnes souffrantes et leur entourage. J'en ai parlé avec Étienne Paris-Gagné, professeur agrégé à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Il participe à plusieurs projets de recherche qui sont à l'intersection du système de justice et de la santé mentale. Il y a beaucoup d'amalgame entre la santé mentale, la dangerosité et la criminalité, déplore le chercheur. Pourtant, les personnes aux prises avec des troubles mentaux sont beaucoup plus victimes de violences qu'à risque d'en commettre. Selon les données, on parle de 97 % des crimes qui sont commis par des gens qui n'ont pas de problème de santé mentale, dit le professeur Paradis-Gagné. C'est minime, mais il y a une surreprésentation dans l'image publique de gens dangereux atteints de troubles de santé mentale. Le professeur Étienne Paradis-Gagné a une connaissance fine des effets de la loi P38 sur les individus. Pour une étude, il a rencontré des personnes ayant été hospitalisées de force. Il est également chercheur principal dans un projet financé par le gouvernement fédéral qui porte sur le vécu des familles ayant eu recours à la loi pour faire traiter un proche contre sa volonté. Dans les deux cas, les conséquences peuvent être très néfastes. Une étude de Corderoy et Hall montre que les effets négatifs de l'admission involontaire, traumatisme, perte d'estime de soi, etc., sont plus élevés que les bienfaits cliniques, note-t-il. Quand l'exception devient la norme. Ces critiques sont portées par de nombreux groupes de défense des droits des personnes souffrant de problèmes de santé mentale qui ont répertorié de multiples abus au fil des ans. Je souhaiterais qu'on commence par bien appliquer la loi avant qu'il y ait une réforme, lance François Winter, porte-parole de l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec, AGDD-SMQ. Ce qui est important, ajoute M. Winter, c'est notamment de respecter les droits des gens et de traiter cette loi-là comme ce qu'elle devrait être, c'est-à-dire une loi d'exception. Or, selon lui, les chiffres montrent qu'on y a trop souvent recours. On note une hausse de 78 % des requêtes de garde entre 2012 et 2022, avance-t-il, alors que les bénéfices cliniques de l'hospitalisation involontaire sont jugés faibles et souvent traumatisants. On peut bien demander de réviser la loi P38, mais demain matin, est-ce qu'il va y avoir davantage de services de crise? Non. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est à qui ça sert? Ça ne sert certainement pas aux personnes qui souffrent. L'hôpital, ce n'est pas un milieu de vie. Même son de cloche de la part de l'Observatoire en justice et santé mentale, qui, dans son mémoire soumis à l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice, plaide pour la fin de l'hospitalocentrisme et de la médicalisation des problèmes sociaux. De nombreux intervenants et organismes entendus lors des audiences publiques de l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice, IQRDJ, ont d'ailleurs souligné que la loi P38 était trop souvent utilisée pour pallier l'absence de services en hébergement, en gériatrie ou en toxicomanie. Résultat, on judiciarise des besoins qui relèvent d'un manque d'accompagnement social. Un constat confirmé sur le terrain. On a plein de P38 pour des patients en démence parce qu'il faut les garder contre leur gré. On judiciarise des personnes âgées, ça n'a aucun sens, s'indigne la psychiatre Claire Gamache. Dans ce contexte, le recours systématique à la loi P38 est-il un aveu d'échec? Absolument, me répond la docteure Gamache sans hésiter. Le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, qui voit d'un bon œil le projet de loi 23, se demande pour sa part comment on répondra à la demande dans le futur si on élargit les critères de la loi. Ça fait des années qu'on demande des infirmières et infirmiers de rue ainsi que davantage d'équipes multidisciplinaires, souligne Yves Francoeur. On revient toujours au manque de ressources. Et à ce que ce manque implique qu'il faut malheureusement une tragédie pour avoir accès à des services. J'ai beaucoup plus d'accompagnement et de ressources aujourd'hui, me confirme tristement Julien Gendron-Tardif. C'est symptomatique qu'on attende après le drame pour réagir. Et le projet de loi 23 n'y changera pas grand-chose. Au moment d'écrire ces lignes, le gouvernement ne prévoit rien pour s'attaquer aux véritables causes de la crise de santé mentale qui frappe le Québec. Oui, on pourra hospitaliser plus facilement les gens qui ne vont pas bien avec le projet de loi 23. Et peut-être, j'écris bien « peut-être », pourra-t-on éviter des tragédies. Mais s'il n'y a pas plus de ressources pour les gens qui souffrent et de soutien pour leurs proches, si on ne finance pas davantage les organismes communautaires qui les aident et si on ne fait rien pour rétablir la confiance des usagers dans un système perçu comme trop coercitif, alors à quoi bon une nouvelle loi? Le petit projet qui donne de grands résultats. Un projet pilote refinancé in extremis permet de réduire les demandes d'évaluation psychiatrique sans consentement de façon importante en Montérégie-Est. Danielle Bédard, directrice générale du Carrefour en santé mentale pour les familles et l'entourage CSMFE, explique. En 2023, votre organisme a mis sur pied un projet pilote d'intervention. En quoi consiste-t-il? On demandait depuis des années qu'un intervenant puisse se joindre à la première ligne lors d'une situation de crise afin de pouvoir ouvrir le dialogue avec la famille. La Direction de la santé mentale et dépendance du CISSS a entendu notre demande. Notre projet pilote prévoit que deux intervenants, un provenant de notre organisme et l'autre du centre de crise, l'Accès, à Longueuil, participent à l'intervention. Le problème avec la loi P38, c'est que souvent les familles font hospitaliser leurs proches et ils ressortent le lendemain. Notre projet pilote vise à prévenir le recours à P38. La co-intervention avec toute la famille, qui est basée sur le dialogue, peut aussi se poursuivre avec différentes options comme l'hébergement et l'accompagnement. La co-intervention permet aussi de rétablir les liens au sein de la famille. Dans 80 % des cas cette année, on a évité l'hospitalisation de force, qui peut être éprouvante pour la personne concernée, mais aussi épouvantable pour une famille. C'est un traumatisme, rappelle Daniel Bédard. En 2025, Le Devoir rapportait que Santé Québec avait coupé votre financement. Quelle est la situation aujourd'hui? Après des échanges avec le ministère de la Santé, on a réussi à obtenir du financement pour un an seulement. Notre projet avait pourtant retenu l'attention du ministre responsable des services sociaux de l'époque, Lionel Carman, qui voulait l'étendre à la grandeur du Québec, dans notre réseau qui compte plus de 50 associations dont la mission est de soutenir les familles et l'entourage d'une personne qui vit une problématique de santé mentale. C'est une approche d'intervention qui permet de faire des économies en évitant l'hospitalisation, qui coûte beaucoup plus cher. Est-ce le seul projet du genre au Québec? L'organisme Arborescence à Montréal a un projet similaire, mais travaille davantage avec des pères aidants famille. Il y a deux semaines, j'ai présenté notre projet à l'Institut Pinel devant un groupe d'intervenants et de gestionnaires des réseaux communautaires et publics de la santé, dont la docteure Claire Gamache, présidente de l'Association des médecins psychiatriques du Québec. Il y avait beaucoup d'intérêt. C'est un projet à plus faible coût qui pourrait facilement se reproduire à la grandeur de la province. Ça permettrait d'éviter le phénomène des portes tournantes que plusieurs déplorent. Que pensez-vous du projet de loi 23 qui vise à moderniser la loi P38? Il y a des bonnes choses dans ce projet de loi. Entre autres, on permettrait à la personne qui souffre de problèmes de santé mentale de remplir une demande anticipée de soins. Cela fait longtemps que nous souhaitons que les personnes concernées aient le premier choix dans la façon dont elles souhaitent être accompagnées si leur situation se détériore au point où elles ne puissent plus décider pour elles-mêmes. Comme intervenante de crise, c'est notre travail d'ouvrir la discussion jusqu'à la dernière minute pour tenter d'éviter d'avoir recours à ces mesures d'exception. Nous avons hâte de voir s'il y aura plus de ressources sur le terrain. Pour le moment, les ressources financières visent à actualiser la loi et non à prévenir dans la communauté ce qui pourrait être évité. C'était Santé mentale, l'occasion ratée par Québec. Un dossier de Nathalie Collard, paru le 12 avril 2026 dans la presse.